jeudi 6 juin, 21h, ou un peu plus, sur Radio Canu 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine, ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Salut Romain.
Salut Xavier.
Comment tu vas ?
Ça va pas mal.
Est-ce que ça va bien ? Parce que c'est bon, c'est le début de la grand-messe.
Ça commence.
C'est la fête.
Ça a commencé.
C'est la fête aux jeux vidéo.
Mais c'est surtout ce week-end que ça va exploser.
Ah, voilà.
Mais on en reparlera.
Et oui, ce dont on parle, effectivement, c'est la période des jeux de l'été. C'est toute la période traditionnelle début juin où en fait toute l'industrie du jeu vidéo se rassemble pour faire ses annonces sur les jeux vidéo à venir, sur les consoles à venir, sur les technologies qui arrivent, etc. À l'époque c'était à l'E3, maintenant c'est pour le Summer Game Fest présenté par l'inénarrable Geoff Kelly.
Pas seulement, mais on y reviendra.
Et c'est effectivement un sujet dont on va parler aujourd'hui. On va pas parler des annonces parce que elles ont pas été faites.
Il y a deux trois trucs qui ont commencé, mais pas encore quelque chose qui mérite qu'on revienne dessus de façon complète.
On fera ça probablement la semaine prochaine ou la semaine d'après, on verra. Mm-hmm. On prendra le temps de décortiquer tout ça. Mais avant ça, je te propose, Romain, de parler des mouvements sociaux et de l'histoire un peu mouvementée du studio Spiders.
Est-ce que tu nous en aurais pas déjà un peu parlé il y a quelques temps ?
Oui, c'est possible. C'est possible que j'ai déjà parlé de Spiders, mais si vous ne vous remettez pas ce qu'est Spiders. Spiders, c'est un studio de jeux vidéo français qui a été fondé au milieu des années 2000, qui historiquement a eu à sa tête notamment Jeanne Rousseau, et qui est spécialisé dans tout ce qui est jeu de rôle plutôt orienté action, vraiment à l'occidental. Hein, donc les titres, le titre qui les a fait connaître au début, c'est donc Mars Warlogs, qui date de 2013, et sa suite Technomancer.
C'est une suite ?
Enfin, c'est dans le même
dans
univers,
le même esprit, en tout cas. Ouais,
c'est
ouais.
Dans le même univers. Et dernièrement, il reste sur plusieurs succès. D'abord, le succès critique de Gridfall et le succès, pour le coup, même commercial de Steel Rising. Steel Rising qui est sorti en 2022. Et là, dernièrement, lors de l'AGD French Direct, dont on a parlé il y a une ou deux semaines, à tout casser.
La semaine dernière, je crois.
Dont on a parlé la semaine dernière, qui était donc la conférence sur les jeux francophones, les jeux francophones à venir. La suite de Gridfall, donc Gridfall 2, a été annoncée pour 2025, avec une sortie en accès anticipé déjà pour cet été, présentée en grande pompe comme The Last Thing, le dernier jeu que tout le monde attend. Donc c'était
à la GFRN Direct en tout cas.
Ouais, voilà.
C'était vraiment
à la GFRN Direct.
Son rôle.
Voilà. Donc c'était tout ça pour dire que Spider, c'est pas un petit studio inconnu sur la scène française. C'est quand même un studio bien implanté.
Française et internationale du coup.
Oui. C'est un studio bien implanté et qui est en tout cas dont les productions sont suivies par tout un tas d'observateurs et par les joueurs eux-mêmes. Si je voulais parler de AG Friends Direct, je voudrais parler aussi de son actuelle présidente.
De Spiders, tu veux dire.
J'ai dit AG Friends Direct.
Oui.
Pardon.
C'était plus difficile à dire que Spiders.
De Spiders, c'est pour parler de la présidente de ce studio qui s'appelle Anne Desvoissoux.
Ok, la connaissait d'ailleurs.
Oui, Anne Desvoissoux, en fait, c'est quelqu'un qui a démarré sa carrière chez Cryo en 1994. Cryo qui était, en gros, la grosse boîte du multimédia français à l'époque.
Qui faisait des jeux pas photoréalistes, mais pas loin. Enfin, on avait Lost Eden,
Atlantis,
les Siberia.
Les premiers Siberia, et je pense que ça a été édité par eux, je pense. Et quoique, il est arrivé bien tard.
Ouais.
Je me souviens surtout des Versailles.
Oui,
des
voilà.
Trucs comme ça.
Donc vraiment des jeux qui focusent sur l'apparence, enfin sur l'environnement dans lequel tu vas évoluer.
Oui, voilà, et qui poussaient surtout les parents à acheter en disant « Hey, regarde, c'est ludo-éducatif et puis c'est de l'histoire ». Alors que c'est des jeux cassés, mais ça c'est une autre histoire.
Oui,
bon. Ça c'est une autre histoire.
C'est une autre époque.
Et puis bon, il y a eu beaucoup d'époques de cryo. On avait déjà parlé de tout ça. Et ensuite, en fait, elle a cofondé un studio français aussi très connu qui s'appelle Quantic Dream avec un dénommé David Cage.
David Cage.
Non,
il est français, monsieur.
Non, David Cage. Parce que c'est pas son vrai nom, donc j'ai le droit de dire Cage.
Ah oui, d'accord.
C'est pas
ça balance direct.
C'est pas son vrai nom, je veux dire Cage.
Ok. Mais dont on aurait beaucoup à dire aussi, et dont beaucoup de gens ont parlé jusque devant des tribunaux.
Oui, c'est ça. Et d'aucuns pourraient croire que c'est depuis ça que Anne de Voissou imagine que, en fait, un succès commercial ne peut s'accompagner que d'abus managériaux. Mais bon, ça, on le verra plus tard.
Et de toxicité dans le studio?
Complètement.
Okay.
On va parler plutôt de sa période plus récente.
Okay.
Elle a rejoint le studio Kiloton en 2016 en tant que présidente. Kiloton, c'est un studio en partie lyonnais qui est surtout connu pour des jeux de simulation de voitures, notamment la série des WRC, donc des jeux de rallye, et dernièrement Test Drive,
c'est de la simulation un peu pointue, quoi.
Simulation assez un peu pointue, justement, de conduite automobile compétitive. En fait, le truc, c'est que Kiloton, elle est arrivée en 2016. Mmh. En 2018, Kiloton a été racheté par Nacon. Nacon, qui est en fait un éditeur de jeux vidéo, qui s'appelait avant Big Ben Interactive, qui faisait des manettes, qui faisait des accessoires low cost pour console et pour PC. Et qui s'est transformé qui avait déjà des petites activités en tant que éditeur de jeux et qui a voulu se lancer complètement dans l'édition de jeux en rachetant certains studios. Mmh. Qui étaient tous chez Focus avant, c'est pas de bol.
Ouais, il y a un pattern.
Il y a un truc. Il se trouve que ce rachat-là, il s'est fait de façon assez houleuse parce qu'il y avait des vrais problèmes, notamment de disparité salariale et d'abus managériaux, clairement, et de toxicité. Et on avait un vrai problème avec la direction de Kiloton qui se défausse sur Nacon pour toutes les demandes et toutes les problématiques qui sont remontées. Et lorsque les employés vont voir du coup Nacon, la maison mère, Nacon dit que en fait c'est au management de Kiloton de faire les demandes de changement.
Tout le monde se renvoie la balle, personne ne fait rien et surtout personne ne fait évoluer la situation.
Un beau serpent qui se mord la queue, qui a amené à la situation qui se pourrit jusqu'au mouvement de grève qui a eu lieu chez Kiloton en juillet 2023.
Alors, dont on avait parlé à l'époque.
On en avait parlé à l'époque, mais l'auditeur, vous êtes des auditeurs très attentifs et vous me direz, ça peut pas être la faute de Anne de Voissou, vu que Anne de Voissou n'était plus chez Kiloton
à
ce moment-là, vu que en avril 2023, donc quelques mois auparavant, elle était partie de chez Kiloton pour arriver chez Spiders.
D'accord.
Sauf que ne pas oublier que Spiders a été racheté par Nacon en 2019.
Oui, donc c'est un transfert interne.
Soyons clairs.
C'est une mutation interne.
Voilà, Kiloton et Spiders sont des studios sous la houlette de Nacon, donc c'est une décision de l'éditeur de jouer aux chaises musicales.
Et surtout, du coup, de remplacer l'ancienne directrice du studio,
c'est
dont
ça.
Tu as parlé tout à l'heure, Jeanne Rousseau.
Exactement, parce que la boss historique du studio, c'est Jeanne Rousseau, en fait, qui passe à la création, à la production, à la directrice de création et de production. Il faut savoir que Jeanne Rousseau avait en tant que directrice aussi avait des parts dans Spiders quand Spiders s'est fait racheter. Jeanne Rousseau maintenant a un rôle plus diffus vu que désormais en fait elle habite plus en France, elle habite à Venise et on va dire que elle a un regard sur les productions du studio
extérieur
qui rappellerait un peu ce que faisait un Peter Molineux à l'époque. Elle vient de temps en temps.
D'accord.
Elle dit, on change ça. Et puis elle repart à Venise.
Ok.
Voilà. Bon, ça c'est quelques, ça c'est effectivement en traînant sur quelques comptes de développeurs de jeux vidéo qui actuels ou anciens de chez Spiders, c'est des choses qui sont qui sont sorties un peu en off. Mais bon, aujourd'hui on va pas parler de Jeanne Rousseau, on parle surtout d'Anne Desvoisou. Parce que pourquoi de tout à l'heure j'ai parlé des mouvements sociaux chez Kiloton alors que Anne Desvoisou était plus présidente? Déjà parce que elle a contribué au large pourrissement de la situation entre 2016 et 2023.
Évidemment. Et ça, il y a des gens qui le disent pas en off.
Ça c'est clair, voilà. Et surtout que ne pas oublier que la grève de 2023 chez Kiloton, elle s'est étendue à Spiders fin juillet et elle a duré jusqu'à début août d'ailleurs.
Et ça, on sait comment ça s'est réglé, qu'est-ce qui a arrangé les choses entre guillemets.
Ah. Eh ben, on va, si tu veux, si tu veux.
Je te fais des transitions, prends-les.
si tu veux en parler, parce que, en fait, il faut savoir que depuis janvier 2023, Anne Desvoisou, c'est pas qu'une présidente,
de studio,
c'est aussi une présidente du SNJV, donc le syndicat national du jeu vidéo. Et quand on dit syndicat, c'est le syndicat patronal, hein, celui qui porte les intérêts des investisseurs et non des travailleurs. Mmh. Clairement, c'est le MEDEF
du
jeu vidéo. Hein, voilà. Et puis Anne Desvoisou, c'est quelqu'un qui a déclaré, notamment quand il y a eu les affaires, notamment chez Quantic Dream, mmh, que, je cite, le crunch n'existe pas dans l'univers professionnel du jeu vidéo.
Oui, d'accord.
Voilà. Donc,
l'exception française.
C'est ça, exactement.
Qu'elle a contribué à mettre en place.
C'est ça.
On est bien d'accord.
Et on se ramène aujourd'hui, on se ramène là en. Ça a eu lieu, c'est quelque chose qui a eu lieu tout début mai 2024. Où le syndicat des travailleurs du jeu vidéo, donc le STJV, a publié un communiqué que je vais vous lire, pas de façon extensive parce qu'il y a des, en gros il est un peu long, mais je vais vous donner les meilleures feuilles. Mmh. Alors que des négociations ont lieu au sein du studio Spider sur le télétravail et les augmentations annuelles de 2024, la directrice opérationnelle de l'entreprise et présidente du SNJV, Anne Desvoisou, exige que Spiders change de délégué syndical de l'entreprise.
D'accord.
Anne Desvoisou souhaite revenir sur la liberté de télétravail acquise au sein du studio lors du Covid et propose des augmentations entre 0 et 3%. Pour rappel, là c'est moi qui la rajoute et c'est pas dans le communiqué, l'inflation en 2024 était de 5%. C'est-à-dire que les gens seront moins payés pour faire pareil.
Un pouvoir d'achat moindre.
Un pouvoir d'achat moindre pour faire pareil. Mmh. Sachant que elle a aussi, Anne Desvoisou a adressé un courrier, je cite, lunaire à notre syndicat et à notre délégué syndical. Dans celui-ci, elle tente de faire pression sur nos représentants pour mettre un terme aux négociations qui n'ont pourtant pas de date butoir. Et ces agissements constituent de la discrimination syndicale à l'encontre du délégué de STJV. Anne Desvoisou prétend représenter les salariés et agir pour leur bien en menaçant dans un email de relance de mettre fin de manière unilatérale aux négociations, ce qui entraînerait l'imposition de règles massivement rejetées par les travailleurs de Spiders. Faire référence aux revendications qui ont eu lieu lors de la grève de l'été dernier, qui demandaient l'arrêt de pratiques managériales toxiques et l'arrêt des discriminations salariales.
Okay.
Nous demandons donc de mettre fin à ces manœuvres grossières et de respecter la représentation des salariés, notre liberté syndicale et le principe d'une négociation loyale.
D'accord, donc elle n'est pas là pour discuter, quoi.
Voilà. Alors, de base, les choses s'arrangent pas depuis
oui,
l'été dernier.
Voilà, là tu me parles de quelque chose qui a été déclaré début mai.
Voilà. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Gridfall a été annoncé en grande pompe dans l'AG des French Direct, avec un silence assourdissant sur tous ces points.
D'accord. Même du côté du studio finalement. Enfin, de...
Ah, tu veux dire au niveau de la com du studio? Non, le STJV n'en a pas parlé spécifiquement.
Ouais.
Comme le disait le communiqué, il n'y a pas de date butoir aux négociations, donc elles sont toujours en cours.
Juste que pour les appeler négociations 2024, il y a un moment, il va falloir rentrer dans un cadre.
Normalement, c'est censé être avant fin juin. Mais bon,
ça va arriver vite.
Voilà. Donc, je pense qu'on en saura peut-être un peu plus début juillet là-dessus. C'est pas pour rien qu'il y avait eu des mouvements de grève à partir de début juillet l'année dernière.
Ouais, peut-être que si. Enfin, c'est pas forcément dans l'intérêt de personne d'en parler officiellement, entre guillemets, ou même du côté du STJV.
Oui.
Maintenant, à l'époque, justement, à la période de du grand raout des conférences.
Sachant que le STJV a déjà eu affaire à des critiques sur le timing de certaines de leurs communications concernant, par exemple, le jeu Banishers, lorsqu'ils avaient fait.
C'est Dontnod?
Oui. Quand ils avaient fait justement un communiqué par rapport aux problèmes de négociation, aux problèmes de négociation et aux problèmes de managériaux aussi.
Ouais, sur l'organisation du studio, etc.
D'organisation chez Dontnod. Et qui, selon eux, en fait, et selon certains observateurs, en fait, avaient potentiellement pourri la sortie de Banishers. Bon, il faut savoir qu'en plus, ça n'a pas dû s'arranger vu que Banishers, c'est plutôt un bide.
C'est pas un succès, en tout cas.
C'est pas un succès. Après, bon, le mettre sur le dos du seul communiqué du STJV, ça me paraît grossier, mais bon, ça, c'est autre chose.
Oui, parce qu'il y a le jeu aussi, hein, au milieu de tout ça.
Évidemment, il y a des joueurs, hein.
Ouais, voilà. Ouais.
Et puis, pour le coup, le côté triste de la chose, c'est que si les joueurs étaient vraiment extrêmement inquiets du sort des salariés, personne n'achèterait des jeux des jeux comme GTA 6 ou Red Dead Redemption 2.
Je pensais que t'allais dire Ubisoft ou Quantic Dream.
Non.
Je sais pas pourquoi.
Mais oui, enfin voilà, le c'est on va
non,
dire.
Non, j'entends. Après, dans l'autre sens, j'ai entendu aussi l'inverse. Des gens justement qui disent que il faut pas pourrir la sortie d'un jeu. Parce que ça aura un impact sur les développeurs qui subissent déjà des conditions de travail compliquées.
Et ça s'entend, pour le coup.
Voilà, c'est ça marche un peu dans les deux sens.
Oui,
aussi.
Ça s'entend. Ça s'entend complètement. Hein.
Après, oui, dans certains domaines, le problème c'est que si tu valides le résultat, c'est pas que tu valides la méthode toi-même. Oui. C'est pas que tu adoubes que tu justifies les méthodes qui ont amené à la création du jeu. Oui. Mais pour tous ceux qui sont décisionnaires, finalement, tous ceux qui prennent les décisions et qui voient l'argent rentrer ou pas, si l'argent rentre, ils n'ont aucune raison de changer.
C'est ça.
Donc c'est une vraie discussion compliquée.
Oui.
Voter avec son portefeuille, enfin, un petit peu tout ça, en fait, vraiment un rapport avec les conditions de travail dans lesquelles les jeux sont faits, est-ce qu'on les accepte, est-ce qu'on les finance, est-ce qu'on les supporte, enfin, c'est une vraie question qui n'a pas une seule réponse.
Oui, typiquement, c'est quelque chose dont on reparlera dans d'autres sujets, notamment quand on abordera le cas de Moon Studio, par exemple.
Oui, je sens que t'as envie depuis un moment.
Ah, mais en même temps, il me chauffe l'autre, là. Mais il me chauffe très très fort. En tout cas, voilà, pour conclure sur tout ça, c'est un peu triste de voir que, en gros, en avril 2003, en avril 2023, lorsqu'on avait su l'arrivée de Anne de Voissou sur Spiders, on avait un peu déjà anticipé ce qui se passerait et le mouvement de grève de l'année dernière et les problèmes de négociation syndicale d'aujourd'hui et que, c'est un petit peu déprimant, je t'avoue.
Bah, c'est pas une surprise, ouais. On aurait aimé être surpris dans l'autre sens.
Ouais, c'est ça.
Ok. Bah, du coup, à suivre, parce que j'imagine que le STJV est toujours sur l'affaire et que si ces négociations sont toujours en cours, ça communiquera d'une façon ou d'une autre.
Il faudra suivre, en fait, de manière générale, déjà, comment ça se passe, parce que là, on parle de Spiders, mais il faudra voir comment ça se passe chez Kiloton, qui vient de sortir son test drive Solar Crown, et puis les autres studios Nacon, t'as Pastek Game notamment, t'as Ishtar.
David Urbanet, ouais.
Ouais, t'as Ishtar avec ceux qui ont sorti Lakeboard Legacies.
Ouais, et puis, c'est
ça?
J'aurais dit The Last Spell, mais
Ah,
peut-être qu'il c'est un ensemble. Qu'il y a plusieurs.
En tout cas,
pour moi, Legbourg Legacy, c'est des Strasbourgeois, mais peut-être que je me trompe.
Mais en tout cas, par contre, ce qui est sûr, c'est que Legbourg Legacy et l'Aspel, c'est chez eux.
Oui, la nébuleuse Nacon, oui. Et sa façon de gérer les différents studios. On n'est pas au niveau d'un Embracer dont on parlait les dernières semaines avec une vraie constellation hein, d'éditeurs, de studios, de branches, de divisions, avec tous les dégâts qu'on a pu constater. Hein, on compte quand même chez eux, rien que chez eux, hein, 4500 licenciements depuis l'année dernière, et de fermetures de studios et de projets abandonnés. Bref, mais effectivement, ça reste intéressant comme sujet parce que c'est beaucoup plus proche.
Voilà, parce que en gros, Spiders, ça doit être un des plus gros studios, qu'on va dire double A, en France.
Et des plus anciens.
Et des plus anciens, et puis avec.
Avec Dontnod, avec deux, trois autres, mais ouais.
C'est ça. Donc c'est assez intéressant de voir comment ce sera géré dans le futur.
Ok. Bon, bah du coup à suivre.
Et bon, maintenant, et si on parlait des cotillons et des paillettes et du futur
avec des images pas du tout, complètement crédibles et qu'on verra ensuite en jeu. Bon, c'est pas du tout
et,
une.
Et si on parlait de guerre de consoles et des trucs super.
Alors, on va pouvoir en parler, mais est-ce qu'elle a toujours du sens?
Ça, c'est, mais alors, c'est déjà, est-ce qu'elle a déjà eu un sens? Ça, c'est autre chose.
Oui,
aussi.
Non, mais moi, j'avais une Master System, d'accord.
Ouais, bah,
alors, ceux qui avaient des Nintendo, de toute façon, ouais, je leur parlais pas. bref. Du coup, j'ai mis un titre en haut de mon papier. J'ai mis E3, AAA et le nouveau visage de l'industrie. On a déjà évoqué ici l'histoire de l'E3. Ce grand événement du début de l'été ou depuis le début des années 90, milieu des années 90.
95.
Ouais, voilà, ouais, mais même s'il y avait des ébauches avant au CES, etc. Donc depuis, voilà, milieu des années 90, à un certain moment de la maturation du média jeu vidéo, en fait, qui a senti qu'il avait besoin de son propre événement pour ça. Mais bon, ça, voilà, on avait un peu parlé de son histoire, donc, mais c'était donc, voilà, l'événement mondial, annuel, dans lequel on venait écarquiller les yeux sur les prochains jeux, les prochaines consoles, les prochaines technologies, les graphismes novateurs et en tout cas jamais vus jusqu'ici.
Et je dirais même un événement qui a eu un impact culturel dans la sphère du jeu vidéo aussi grande que lorsqu'il est mort, on a gardé la période dans laquelle il se faisait pour choisir son moment de communication de l'année, quoi.
Et qu'on appelle presque encore aujourd'hui le non-E3.
Ouais. Il y a beaucoup de gens qui appellent le nom E3, voilà.
C'est pas encore complètement bon. Parce que, en général, oui, quand tu décèdes, ce qui reste de toi, c'est... Enfin, si tu es encore présent dans les esprits, si tu es encore présent dans le langage, est-ce que t'es réellement parti?
Ouais. Alors, pour le syndicat qui organisait ça, oui.
Oui, évidemment. Évidemment. Mais du coup, voilà, c'était donc le grand moment, à grand renfort de marketing, de vidéos plus ou moins maquillées. Hein, on va pas se mentir,
on a eu plus ou moins, mais qui est complètement truffé de bullshit à fond.
On était sur des jeux qui étaient présentés. En fait, on nous disait que le jeu, tel jeu, voilà, vous allez avoir quelques images qui bougent d'un jeu qui sortira 2, 3, 4 ans plus tard, et même dans certains cas qui sont sortis beaucoup plus tard que ça. Donc voilà, il y avait une vraie volonté en fait de créer une hype, de créer une attente, de créer une envie. Mais on a aussi donc raconté comment, il y a quelques années, donc le projet a perdu de sa pertinence, que ce soit aux yeux du public, comme des éditeurs et des studios, qui commençaient timidement, il y a quelques années, à proposer leurs propres événements en ligne, avant que le Covid, en empêchant la tenue du salon dans son format traditionnel, ne vienne complètement ouvrir la voie à la nouvelle ère dans laquelle on est aujourd'hui. Une ère des événements donc en ligne, construit et calibré selon les désirs des éditeurs ou des groupements d'indés.
Et pour une communication directe aux consommateurs, contrairement à l'E3 qui était prévu pour un événement de professionnels.
À certains moments, il y a eu des moments où il était ouvert au public, mais d'autres années où il n'était plus.
Ça a évolué. Sa conception, c'était ça.
Bien sûr, c'était directement adressé aux professionnels et notamment aux professionnels des médias.
Oui.
Mais du coup, voilà. Donc, et ce sont des événements qui aujourd'hui sont même accessibles. À l'époque, c'était en direct. Il fallait être là pour pouvoir en parler. là, maintenant, ce sont des événements qui sont accessibles en replay sur YouTube, principalement au public, à n'importe qui, surtout pour ceux qui n'ont pas pu le suivre en direct. Et c'est l'ancien journaliste, parce que clairement, on peut plus le qualifier de journaliste, Geoff Keighley.
Clairement, il se qualifie plus de journaliste de toute façon.
Ah, mais je pense qu'il a raison et c'est plus honnête comme ça.
Même, oui, alors honnête, c'est le bon. Je sais pas si c'est le bon mot vu que.
J'ai dit plus honnête.
Ouais, parce qu'il utilise quand même toutes ses connaissances de journalistique entre guillemets pour brouiller les lignes entre l'exercice purement promotionnel et le reporting
journalistique
quoi.
Mais du coup donc c'est Geoff Keighley qui sera il y a quelques années donc aux alentours du Covid globalement qui sera le visage de ce changement avec son Summer Game Fest destiné à remplacer le 3 et dont il célébrera d'ailleurs le décès en pissant sur le cadavre tout en plantant les derniers clous dans le cercueil. Clairement, on l'avait vu exulter d'une certaine façon.
Moi, je l'ai vu danser sur sur la tombe.
Oui, complètement, oui. Oui, bah, écoute, je mets des images un peu plus, tu vois.
En tout cas, il était très heureux avec. J'ai rarement vu un sourire Colgate aussi brillant.
Surtout quand dans ton message, tu dis que tu déplores effectivement la fin d'une époque.
Il y avait
un vrai décalage en fait entre l'apparence
et la fin du message et contactez-moi si vous voulez passer vos vidéos quoi.
Oh, c'est vraiment triste. Bon bah au fait ça continue. Mais donc voilà, donc ce qu'on appelle maintenant chez certains le non E3 et de plus en plus aussi je le vois et je le lis de plus en plus le Summer Game Fest de façon plus globale. Bien que la période aille donc au-delà du show de Geoff Keighley et qui concerne une multitude de conférences, on y est entré depuis quelques jours. Et c'est ce week-end qu'aura lieu l'apothéose, hein, clairement, le feu d'artifice. En vrac, ça a commencé avec notamment le Warhammer Skulls sur les jeux de la vache à lait licenciés par Games Workshop. C'était le 23 mai, donc c'était déjà une semaine. Même plus, pardon. C'était même il y a deux semaines.
Oui.
Depuis, on a eu un Indie Live Expo, le State of Play de Sony vendredi dernier, l'OTK Games Expo qui a eu lieu mardi, ou le Guerilla Collective, plus centré sur les indés et les AA, qui vient d'être diffusé.
Tu parles de la G-French Direct, tu me dégoûtes.
J'ai pas fini ma phrase. Enfin. Mais donc, le Guerilla Collective qui a eu lieu là, il y a quelques minutes, à 19h.
Voilà, donc on vous dira rien dessus.
Parce qu'on l'a pas vu.
De toute façon, voilà, on l'a pas
vu. Parce qu'on l'a pas vu. Mais donc, ça continuera fort dès ce week-end. Entre le Summer Game Fest, donc de vendredi, qui prendra toute la place de vendredi, le tir de barrage des indés avec le Day of the Devs, le Devolver Direct et le Wholesome Direct, suivi ensuite du Future Game Show, qui sera un peu plus généraliste samedi.
Oui.
Et enfin, le Xbox Game Showcase et le PC Gaming Show dimanche, où là, on peut s'attendre au plus lourd, d'une certaine façon. Enfin, ça va vraiment concurrencer sur l'ambition, j'ai envie de dire, des projets présentés avec le Summer Game Fest. Avec la conférence de vendredi. Et on aura encore un petit supplément lundi avec l'Ubisoft Forward. Mais et d'ailleurs, c'est rigolo, d'ailleurs, tous ces noms de conférences, ça permet d'apprécier l'inventivité des marketeux.
Ouais, il y a quelque chose. Hein.
Quand c'est pas du direct, c'est du day off, c'est du showcase, du state of machin. Enfin bref, c'est assez rigolo. Du coup, ceux qui veulent arriver sur le marché, maintenant, il va falloir inventer un nouveau truc. Mais donc, voilà, on est parti pour des heures de bande-annonce, d'interviews de développeurs, parfois même de sorties en direct de certains titres, pas toujours annoncés à l'avance. Un des plus célèbres étant évidemment Hi-Fi Rush,
oui.
Sorti en pleine conférence Xbox. Shadow droppé, hein, comme on dit quand on veut montrer qu'on sait de quoi on parle, lors d'un Xbox Game Showcase il y a un an et demi.
C'est
un
ça.
Truc comme ça. Hein.
C'est ça.
C'était début d'année, c'était pas sur la période là maintenant.
Non.
Et pour s'y retrouver, bah, par exemple, voilà, comme je disais, on en parlait en off, je conseille un site du genre gamesrecap.io qui recense tout ce qui a été présenté par conférence avec les bandes annonces disponibles individuellement, plutôt que de se taper des conférences de 4h, 3h, avec en plus de ça la présentation un petit peu, il y a un côté très animation télé, quoi, par moment, avec tous les défauts qui vont avec. Mais c'est pas le seul site qui fait ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre en fait du Summer Game Fest et des autres conférences qui sont passées ou qui vont venir?
Tu vas parler des jeux là?
Pas exactement.
Ah.
Pas exactement. J'ai parlé un petit peu de façon générale en fait. Et c'est un article de Stéphane Totilo, donc l'ancien rédacteur en chef de Kotaku, qui a maintenant son propre site, qui m'a un petit peu donné envie en fait de l'aborder de cette façon. L'industrie elle évolue, on en parle ici régulièrement. Les règles du jeu aussi, on l'a bien vu avec les licenciements massifs, les rachats, les fermetures. qui s'accélèrent, enfin en tout cas qui se sont multipliés depuis entre fin 2023 et début 2024. Et dans le cas du Summer Game Fest, qui a donc l'ambition de remplacer l'E3 pour les triple A et aussi les triple I, les jeux indépendants de on va dire d'un certain, qui ont quand même un certain budget, qui ont quand même une certaine ambition.
Cool, on va reparler du triple I initiative.
Ça aurait presque mérité, je suis presque surpris de ne pas les voir.
Je pense que c'était il n'y a pas assez longtemps.
C'était il n'y a pas assez longtemps, et puis c'était peut-être. On verra si c'était un one shot. Mais bon. Mais si la période de l'E3 était le moment pour faire monter l'excitation et l'attente pour des jeux prévus pour les années à venir, là, pour cette édition, il a déjà été annoncé par son troubadour en chef, Geoff, que cette année sera plus consacrée à des jeux déjà connus, voire même déjà sortis, qu'à l'annonce de nouveautés qui sortiront genre 2026-2027.
Faut dire que il y a aussi une grosse volonté de surtout des plus gros éditeurs qui sont ceux qui dépensent le plus d'argent à la création des jeux, de rentabiliser justement leurs investissements en ayant des jeux avec la durée de vie la plus grande possible, soit en les portant sur d'autres plateformes que celles initialement prévues, soit en proposant du contenu supplémentaire qui
régulièrement.
On parle des jeux services, etc.
On va y revenir, mais effectivement, complètement. Enfin, c'est là que je vais. pour rien te cacher. Donc il y aura aussi quelques jeux, vraiment quelques annonces, quelques nouvelles propositions. Mais ici, prendre le temps de le préciser, c'est quand même que c'est pour calmer les attentes, évidemment, mais ça marque aussi un shift, un changement par rapport aux années précédentes, où il ne prenait pas où il n'a pas pris le temps de le préciser. Et au final... ça montre un petit peu quelque chose aussi, c'est que lui aussi a vu la liste, il a déjà vu ce qui va être présenté pendant son show. Ça a quand même du sens qu'il le dise.
Ouais, j'ai l'impression que chaque année, en fait, t'as toujours ce côté Geoff en la présentation qui est un peu crispé parce qu'il sait que globalement il n'a pas tant de matière que ça. Par rapport par exemple au Game Award où il a toujours beaucoup de matière pour le coup, parce que
oui, mais c'est des jeux déjà connus, déjà appréciés, etc. Enfin.
Ça, plus le fait que c'est la fin d'année. Donc, on va dire qu'en termes de pression, les jeux qui doivent communiquer ont déjà communiqué et les autres, en fait, peuvent se dire de toute façon,
c'est pas maintenant.
Donc, en général, c'est beaucoup plus facile à gérer pour lui cet équilibre-là au Game Awards par rapport au Summer Game Fest.
Où il joue aussi lui-même sa réputation. On parlait de la multiplication de ses conférences, qui dit que dans un an, deux ans, son Summer Game Fest sera boudé par les éditeurs pour une autre conférence organisée autrement, par eux-mêmes, par d'autres. C'est un peu l'inconvénient, finalement, voilà. d'avoir ouvert la voie à autant de diversité et de moyens différents de communiquer autour de la même période, effectivement. Rien ne dit que il faut qu'il justifie aussi sa propre existence.
Voilà. Bah en fait, il va falloir voir déjà comment se répartit sur les gros éditeurs en fait entre les annonces sur leur propre conférence et les annonces qu'ils réservent au Summer Game Fest. Typiquement, quand tu vois que le State of Play, c'est-à-dire la conférence de PlayStation, qui est le plus gros éditeur au monde.
En tout cas, le plus gros consolier au monde avec Nintendo.
C'est fait une semaine et demie avant
le Summer Game Fest,
mais que au final, il a été plutôt avare en énormes annonces. Ça peut lui donner peut-être un...
Oui, c'est peut-être que certains ont réservé l'espace chez lui, mais je pense que tout ça, c'est aussi des choses qui doivent se discuter, se négocier.
Et se monnayer, oui, forcément.
Non, mais parce que voilà, comme je disais, il faut qu'il justifie l'existence de son projet.
Voilà, le truc, c'est que la différence, c'est qu'il vend des espaces publicitaires là où l'E3 vendait en fait des places dans le Convention Center, quoi.
Mais du coup, il a donc déclaré qu'il y aurait un peu moins... De nouveautés, de choses, et on va plus parler de jeux qu'on connaît déjà. Et c'est clairement, donc tu le disais, en fait, en phase avec le visage actuel de l'industrie, avec la place de plus en plus massive sur le marché des jeux services, comme on l'a vu avec le rapport Newzoo de 2023, dont on avait parlé sur les jeux qui ont le plus rapporté en 2023, et dont la majorité sont des jeux sortis depuis des années.
Oui.
On voit aussi de plus en plus d'informations sur le contenu supplémentaire pour les jeux déjà sortis. que ce soit les collaborations de Fortnite, les nouvelles saisons de The Division, là, Ubisoft en parlait, de Diablo, de n'importe quel nouveau perso Street Fighter, de Tekken. Il y a énormément d'exemples, ça a rien d'entrer dans une liste, mais on est vraiment dans une logique de on va te rajouter des choses, éventuellement te proposer de payer pour ça, pour continuer finalement à rentabiliser un investissement de départ qui était déjà massif. Et ça correspond donc à cette tendance assez forte qui consiste à garder les utilisateurs sur les jeux auxquels ils jouent déjà, en les incitant donc à dépenser régulièrement. Tactique économique qui réussit plutôt bien aux mastodontes du domaine, Fortnite en tête, clairement, mais qui rend l'accès à cette corne d'abondance très hasardeuse en fait. Essayer de se faire une place sur ce marché saturé et compliqué peut être très coûteux, parce que surtout pour les ambitieux AAA, qu'ils soient free-to-play ou payants, les réussites récentes, elles sont rares.
Oui.
À ce niveau d'ambition et de budget.
C'est pour ça que, justement, lors du State of Play, le jeu qui a été le plus mis en avant en étant mis en premier avec deux vidéos complètes dessus, etc., c'était un jeu qui s'appelle Concorde, qui est en gros un Overwatch, c'est-à-dire ce qu'on appelle un hero shooter. Un jeu à la première personne ou avec des personnages qui ont des capacités spécifiques et qui doivent en gros se tirer dessus dans plusieurs modes de combat et c'est un créneau qui est déjà largement saturé vu que il y a des jeux gratuits qui existent dans le domaine et qui proposent ça
et qui prennent déjà beaucoup de place,
aussi bien Overwatch 2 que Valorant.
Ou même Fortnite. Sans les côtés effectivement particularités,
mais différent. Mais en tout cas sur ce type de gameplay précis, il y a déjà deux jeux qui prennent tout et qui sont gratos.
Alors, on s'attendait effectivement à ce que ils tabassent au niveau du tarif. Visiblement, ils prennent une voie un petit peu intermédiaire. Ils auraient prévu de le sortir à $40.
Ouais.
40 euros.
C'est toujours plus que zéro, hein, soit en passant.
C'est toujours plus que zéro. Ça dépend ce qu'ils incluent dedans.
Ouais.
Bref. Mais oui, effectivement, ça montre bien vers quel type de jeu, vers quel type de public et vers quel type de manne financière se tournent certains gros éditeurs. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas pour les jeux sur le marché des jeux classiques. En termes de gros triple A qui a atteint les objectifs financiers.
Des jeux premium, c'est-à-dire
que t'achètes une fois et puis point barre.
Voilà,
éventuellement, t'as du contenu supplémentaire sous forme de DLC, mais
qui n'ont pas prévu en tout cas de
saison, de régularité.
Ni de saison, ni de contenu en ligne ou ce genre de choses.
Voilà. Okay. Les gros qui auraient atteint les objectifs financiers, on nage pas dans un flot ininterrompu ces derniers mois. On en avait parlé en préparant l'émission, on en a quelques-uns, on a quelques noms.
Ben, God of War. Le dernier God of War.
Ouais,
qui a annoncé récemment, justement, on va le mettre sur PC pour vendre aux joueurs qui l'auraient pas eu sur la PS5.
Mais ça, c'est déjà 2022. Ouais. Le dernier God of War. 2023, on avait Hogwarts Legacy. Mm-hmm. On a quelques réussites.
Oui.
Mais, il y a bien quelques bons résultats, mais il y a aussi des échecs assez lourds de conséquences. Nombreux articles évoquaient cette situation en fait récemment, et on en parlait au début de l'année pour expliquer les vagues de licenciements, etc. On est dans une phase d'augmentation des coûts, d'explosion même des coûts. Et comme le rappelle quelqu'un dont on a déjà parlé, Lars Wingefors, donc le CEO d'Embracer, qui a visiblement décidé qu'on parlerait de lui toutes les semaines dans la presse en général, s'ils n'augmentent pas le prix de vente ou qu'ils ne réduisent pas l'ambition, la longueur du temps de développement des jeux, les AAA, ils ont quasiment plus de chances d'être rentables.
C'est pas pour rien que tu as quelqu'un comme Mike Ibarra, qui est donc l'ancien CEO de Blizzard, si je dis pas de bêtises, qui est réputé pour être quelqu'un avec un certain cynisme, dirons-nous, qui avait proposé sur Twitter il y a pas si longtemps est-ce que ce serait pas bien que pour tous les gros jeux AAA, il y ait pas un système de pourboire qui permettrait à ceux qui voudraient de donner un peu plus d'argent sur un jeu qui coûte déjà, mais comme ils y ont passé beaucoup de temps et qu'ils ont beaucoup aimé, ok, ils ont payé déjà $89 dessus, mais en plus ils pourraient rajouter 10, 15, $100 parce que le jeu leur a plu. Une sorte de soutien, tu vois.
Et d'une certaine façon, ça correspond au modèle des Game as a Service, où tu vas régulièrement remettre de l'argent pour du contenu, des choses de vraiment concrètes de gameplay.
Ah, mais là, c'était sans contrepartie, c'est un pourboire.
Ah, j'entends. Mais au final, la logique de je continue à payer, je paye plus que prévu, je paye plus que ce que j'avais envisagé à l'origine.
Oui.
C'est le projet. Oui, c'est le projet des FIFA avec les lootbox, c'est le projet de te proposer quelque chose et au final, tu vas quand même y retourner, oui. remettre de la thune dedans.
Oui, mais
là il y a le côté volontaire. Enfin,
oui. Entre guillemets, il y a une différence entre le studio de développement a dû quand même proposer quelque chose
en échange
pour le joueur. Là, c'est mon jeu est bien, tu l'as acheté plein pot, mais il est tellement bien que tu vas mettre plus volontairement.
Mais du coup, effectivement, les élucubrations de Mikey Barra mériteraient qu'on en parle plus. Mais voilà.
En tout cas, enfin, c'était juste pour accompagner.
Bien sûr. Non, mais
c'était
ça
juste pour accompagner la réflexion globale de. Il faut qu'on change
quelque chose.
Il faut que les gens crachent plus d'argent.
En gros. Et du coup, un des moyens envisagés, c'est évidemment de vendre de plus en plus de gens. On voit donc arriver, comme tu l'avais dit, la fin des exclusivités sur les consoles, par exemple, sur les plateformes, de façon générale. Principalement sur console, parce que sur PC, bon, les exclus EGS, ça a pu à un moment éventuellement avoir un impact. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus.
Non,
tout le monde s'en fout.
Oui.
Même Ubisoft, hein, qui a un deal depuis 2019, fin 2018, avec Epic Games Store, commence à sortir ses jeux sur Steam en même temps que sur l'Epic Games Store.
Oui, Square Enix, à un moment, avait été
Shenmue 3.
Les jeux, les fameux jeux seconde partie
De Square Enix.
Même de PlayStation, c'est-à-dire que t'as eu justement la première fois que Final Fantasy VII Remake était dispo, c'est-à-dire sur le GS. Pareil pour les jeux quantiques.
Oui, mais du coup, ils sont
arrivés rapidement sur Steam après.
Mais je pense que de façon globale, la logique de survaloriser une plateforme, que ce soit une console, un store, un truc comme ça, ils arrivent au bout en fait de la logique parce qu'ils veulent ouvrir en fait le maximum.
En vrai, le truc c'est que en termes d'argent que ça peut donner, même si Epic,
c'est beaucoup d'argent d'un coup.
Même si Epic va donner
au passé.
Oui, donner beaucoup d'argent d'un coup.
Moins maintenant.
Et puis déjà, ils en donnent moins maintenant parce qu'ils savent que ça leur rapporte pas assez. Et de toute façon, c'est des deals qui peuvent honnêtement n'intéresser que des petits studios. Vu les sommes engagées.
Oui, c'est sûr, mais
pour des gros genre Square,
millions, c'est pas grand chose pour eux.
Connaissant Square et leurs objectifs délirants globalement.
Alors, on en reparlera parce qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose là-dessus d'intéressant.
Ah ouais, ok.
Ouais, chez Square. Bref, donc voilà, le but c'est évidemment de ne plus restreindre l'audience et de l'ouvrir. Sony en pleine phase de sortie de ses jeux sur Steam, tu l'avais dit, Xbox qui devrait selon toute vraisemblance sortir également ses jeux sur PlayStation. Mm-hmm. C'est quand même une vraie révolution dans la dynamique et dans la stratégie de Xbox. Et si on se fort évidemment des hautes sphères des AAA, parce que c'est quand même de ça qu'on parle en général, toi et moi, à part pour leur taper dessus, les AAA, mais sinon dans les jeux qu'on aime bien.
Le truc, c'est qu'on n'y joue pas trop aux AAA, voilà. On va se mentir.
Ils coûtent 60 balles, on a autre chose à foutre. On voit, comme mentionné donc plus haut, que d'autres conférences prévues donc durant la période vont concerner une autre partie de l'industrie, les indés, les AA, voilà. Les IIII. Bref, ça peut être discutable.
Ouais.
Mais on peut constater que ces derniers mois, c'est surtout dans ce domaine en fait que vient principalement l'innovation, mais surtout les succès inattendus. Les vraies réussites, les véritables succès en termes de coûts et de rentabilité. Il y a une liste incroyable depuis le début de l'année. Balatro, Palworld, Manor Lords, Animal Well, Hades 2 dans une moindre mesure, c'était attendu.
Attendu quand même, Hades 2.
Attendu, mais ils ont atteint, ils ont très bien réussi malgré tout.
Ça a bien pété.
Mais du coup, voilà, on est sur la dynamique et le dynamisme de l'industrie. T'as l'impression qu'il est de ce côté en fait. Il est de ce côté, enfin, c'est PC Gamer qui le rappelait.
Bon, moi, je veux citer Thousand X Resist, mais ça, c'est autre chose.
Oui, aussi. Oui.
Pour non, le mais... coup, qui a un succès inattendu.
Bien sûr.
Je me souviens de gens dans ce studio qui se foutaient de ma gueule.
Alors, c'est pas moi, tu parles de quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui et c'est pas bien.
Qui se foutaient de ma gueule quand j'avais fait la démo et je me dis, il y a un truc, ce jeu-là, il est prometteur et. Tu vois que ça marche vraiment bien pour celui-là parce que c'est un jeu très intéressant et qui va dans une direction qui est vraiment pas attendue.
Et du coup, on pourrait citer les Content Warning.
Oui.
Lethal Company aussi. Et un autre un petit peu dans le même esprit, c'est, j'ai retrouvé son nom, Abiotic Factor.
Tu vois, je le connais pas.
Très très récent, mais qui aussi a juste explosé. Donc Man of Lord évidemment.
Moi je pensais à l'année dernière avec Pizza Tower par exemple.
Financièrement, il a moins explosé que ça.
Ah, d'accord, c'est juste un, ça a été juste un phénomène.
Ça a été un petit phénomène, je pense que c'est déjà une belle réussite. Ouais. On n'est pas sur des, sur des millions.
Avec le jeu des pastèques, là.
si on, par exemple, Palworld, c'est 1 million de ventes en 8 heures.
Oui, oui, non, mais les Palworld, c'est hors catégorie.
Oui, bien sûr, mais c'est hors catégorie pas tant par rapport à Man of Lords. C'est 1 million en 24 heures.
Ouais, c'est vrai.
On est dans les mêmes.
Non, mais Palworld, c'était
n'importe quoi.
Palworld, parce que mais... sur, ça a perduré sur plusieurs semaines, Palworld.
Oui, oui, bien sûr. Mais et en fait, PC Gamer donc a fait un article un peu là-dessus, sur en précisant, on est sur un rythme depuis le début de l'année d'un jeu qui fait un succès inattendu, et quand on parle d'inattendu, c'est en millions de ventes tous les 16 jours.
Ouais.
Et tous ces jeux-là, ils viennent pas de gros éditeurs. Ils viennent de petites équipes. Ils viennent de petits. Alors il y a quelques exceptions. Hein, on parlera de Helldivers 2. Mais on est sur des projets qui ont pris beaucoup moins de temps de développement que les énormes jeux. Diablo 3 ou Diablo 4, c'était 10 ans pour le développer. Starfield, c'était 8 ans. Suicide Squad, avec le résultat, la réussite qu'on lui connaît, c'est 7 ans. Un nouveau GTA, un nouveau Fallout, c'est 10 ans.
Même des.
GTA 5, c'est 2013.
Ouais.
Il est censé sortir l'année prochaine, prochain.
Cyberpunk aussi, combien de temps ils ont mis à le faire?
Ils ont mis énormément de temps également. Effectivement, ils vivotaient avec le pognon de Witcher 3, mais donc ils avaient leur projet d'une certaine façon. Mais effectivement, on est sur des investissements monstrueux en termes de coûts.
Oui, parce que c'est long avec des grosses équipes, donc ça.
Mais en même temps, c'est très cher. En fait, il rappelle un truc intéressant, c'est qu'effectivement, t'es en 2016-2017, t'as plein de pognon, t'as une équipe, tu te dis ok, je vais faire un jeu multijoueur, comme tu le disais tout à l'heure, qui va un hero shooter avec en multi avec des mecs un petit peu des super héros, des trucs comme ça. Je vais mettre énormément de monde dessus, je vais mettre énormément de pognon dedans, et mon jeu il sortira dans 6-7 ans quand il sera prêt. Bah du coup on arrive aujourd'hui. On arrive aujourd'hui avec le jeu que tu as cité tout à l'heure, Concorde. Qui a plus de pertinence aujourd'hui.
C'est ça.
En tout cas, qui arrive sur un marché saturé.
Un autre truc qui m'étonne aussi, c'est. Là je reprends surtout le State of Play, vu que c'est. C'est là. Il y a eu plusieurs. T'as parlé de plusieurs conférences, mais. Clairement, la conférence des plus gros, c'est le State of Play. Mm-hmm. Et ce qu'on avait vu, en gros, c'était des jeux, je vais pas dire stéréotypés, mais un peu. C'est-à-dire que, en gros, c'était soit ce qu'on appelait les hero shooters. On y avait deux hero shooters, parce que t'as celui de Marvel, qui c'est pas exactement pareil.
Oui.
Et puis, sinon.
On en parle de Blade ou
voilà.
Pas encore. Hein.
Mais ouais. et les autres.
On va se faire mal maintenant.
Et les autres, c'était en gros des Dark Souls avec une moustache.
Oui, oui, oui. Oui, oui. Au moment où sort le DLC de Elden Ring, c'est optimiste.
Ouais, c'est ça.
Mais
donc
oui.
C'est vrai que c'est. Et il y a un truc où tu dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi une fatigue globalement de, en fait, vous proposez tout le temps le même jeu?
Il y a ça, et il y a. Alors, c'est pour ça que j'aime bien ces articles de PC Gamer, je trouve intelligent dans son approche là-dessus. Il parle évidemment de rejouabilité. C'est le thème principal des AAA, effectivement, qui veulent garder les gens et les faire revenir. Sauf que. Ce sont des jeux qui étaient partis sur la logique de on fait des triple A, enfin on fait revenir les gens et on leur demande de remettre du pognon régulièrement à partir de contenus supplémentaires qu'il faut recréer. Tu as à l'inverse c'est certaines de ces réussites indé qui ont cette rejouabilité dans le cœur, dans leur fonctionnement. Un Lethal Company, c'est le fait d'y aller avec des potes.
Un Vampire Weekend.
Un Vampire Survivor. Un Noita, oui. Qui est en permanence en renouvellement. Enfin, on est sur une génération,
les Terraria-like, quoi.
Ouais, voilà. Des jeux qui, et au final, et surtout, en fait, ils ont cet énorme avantage, de venir se glisser autour de ces gros jeux. C'est-à-dire qu'ils sont accessibles, même pour des gens, qui joue quasi exclusivement à un jeu. Ou à un ou deux jeux, mais un petit jeu à 10 balles que t'auras acheté parce que t'as tes potes avec qui t'en auras parlé, qui t'auront dit tiens, vas-y, achète-le, on va rigoler ensemble, ou alors achète-le, il est rigolo. Et tu vas y passer un petit quart d'heure par-ci par-là, une heure, etc., au milieu de tes sessions d'énormes jeux.
Ouais,
de
comme
plus gros jeux.
Ce genre de choses.
Exactement. Et qui au final deviennent complètement addictifs. Mais ça, c'est pour ça que je parle de rejouabilité dans leur cœur. Et pas dans le contenu que t'es obligé de recréer en permanence. Et là, donc, on est sur un autre niveau de rentabilité, de logique économique, Et de game design, hein, clairement.
Bah, c'est un truc que je redisais aussi à la GFrench Direct. J'ai rarement entendu autant de fois le mot rogue.
Oui, oui, bien sûr.
Le principe du rogue, en fait, c'est que.
Il est parfait pour ce format-là, en fait.
C'est ça, c'est que, en fait, tu vas introduire une partie d'aléatoire et une progression globale. Qui va se voir au fur et à mesure du nombre de parties que tu fais.
Oui, oui. Mais du coup, voilà, c'est intéressant. Alors, certains disent que, enfin, en tout cas, cet article-là envisage que ce soit le futur du jeu. C'est-à-dire que c'est là où il y a de l'argent à se faire. Et en même temps, si tu regardes un peu, on parle en valeur. On est loin, très très loin, hein, de ce que peut rapporter. Même un dixième au classement des jeux qui a rapporté le plus, etc. Et tout ça en étant tout à fait conscient que, par exemple, un Nintendo est complètement en dehors de cette logique-là.
Alors, oui et non, parce que Nintendo, avec son Splatoon, par exemple, joue dans cette cour-là.
Oui, mais ils ont une autre logique au niveau du coût de développement.
Oui,
Nintendo, ils ont complètement abandonné la course à l'armement graphique et technologique depuis des années, depuis la Switch.
Je dirais même depuis la Wii U, en vrai.
Bah, d'une certaine façon, oui, bien sûr.
Rien que la Wii, en fait, déjà. C'est-à-dire que.
Oui, la Wii.
La Wii, c'était le moteur de la GameCube. Hein.
T'as raison, c'est 2006, la Wii, en fait.
La Wii, c'était le même moteur graphique, enfin, c'était les mêmes capacités graphiques que la GameCube, qui était déjà obsolète, tu vois.
Donc, ouais, complètement. Mais du coup, voilà, ils sont sur un point de départ d'investissement beaucoup plus bas. Et en même temps, ils ont une masse incroyable de supports. La Switch étant la troisième console la plus vendue dans l'histoire. Ils sont dans une situation différente. Mais pour revenir aux indés, AA, petits jeux, etc., qui fonctionnent finalement d'une autre façon, on est vraiment sur une dynamique. C'est pas juste un épiphénomène avec quelques jeux qui sortent comme ça et qui explosent. On est vraiment sur une dynamique beaucoup plus importante. Helldivers 2 est un entre-deux. Parce que c'est un studio de 100 personnes, donc c'est pas rien, mais c'est beaucoup plus petit hein, qu'un Blizzard ou qu'un énorme. Il est supporté par Sony.
Oui.
Et il fait un succès incroyable avec aussi finalement la même logique, c'est-à-dire de proposer quelque chose d'un peu différent, d'un peu bizarre, d'un peu inattendu. Un Balatro qui te propose un jeu de poker et au final le but du jeu c'est de péter les règles dans tous les sens. Mmh. C'est des choses qui finalement c'est ça qui a le succès en fait. Les Tal Company, les Content Warning, c'est des jeux qui sont intéressants parce que tu vas découvrir des trucs un petit peu tout le temps, t'amuser d'une certaine façon, et pas y retourner de façon un petit peu régulière pour consommer et pour justifier ton investissement de départ.
En termes, en fait, je prendrais un équivalent en termes d'équipe et en termes de comment ça a été financé avec le studio Asobo et les Plague Tale. C'est-à-dire que Asobo, en gros, t'as Asobo, Plague Tale qui propose un jeu sur des thématiques plutôt, au final, classiques, c'est-à-dire que en grosso modo, Plague Tale, c'est Last of Us au Moyen-Âge.
Mm-hmm.
Très grossièrement.
Oui, oui, oui.
Très grossièrement. On va capitaliser sur ce que connaissent les joueurs et on fait un succès là-dessus. Là où Helldivers, avec en gros une équipe de même taille, c'est-à-dire 100 personnes, avec la grosse boîte derrière qui est Sony, alors que pour Asobo, c'était, à l'époque, c'était Microsoft.
Oui.
Là, en fait, part sur un autre concept et plus sur un autre concept et quelque chose de plus étonnant.
Oui, de qui a du coup vachement conquis les joueurs en fait.
Et à l'époque, on avait dit Plague Tale, c'est un succès, entre guillemets, entre ce Plague Tale a rapporté et ce que le Divers rapporte, il y a pas comme une mesure.
Et c'est loin d'être fini parce qu'il y a une vraie stratégie de création et d'ajout régulier avec un maître de jeu en fait qui vient faire évoluer la dynamique du jeu, des fausses pubs complètement barrées, enfin bref, qui viennent des fois contredire ce qu'il y a réellement dans le jeu. Enfin, ils ont il y a une vision, il y a un esprit. C'est intéressant et c'est quelque chose qui est presque une anomalie que ça fasse partie d'un aussi gros studio grande boîte que Sony, même si c'est Arrowhead, qui est une boîte partenaire. Je crois pas qu'ils appartiennent à Sony.
Pour le coup, c'est du sort. Je sais pas si c'est du sort parti.
Pour moi, ouais. Je crois pas qu'ils appartiennent.
Okay.
Ils ont un deal, mais ils ont pas plus. Mais du coup, voilà. Pour moi, et je suis assez d'accord avec ça. Enfin, l'évolution, donc, parce qu'on va peut-être reboucler sur le point de départ. Les conférences qui arrive maintenant et qu'on va voir, nous ont déjà prévenu qu'on serait ou dans des choses, enfin chez les gros, chez les vraiment les ceux qui d'habitude te font tout péter avec une annonce incroyable. Ces dernières années, en tout cas, et depuis 25 ans, en gros. Enfin, presque 30 ans, en vrai, 95. On ne sera pas dans cet état d'esprit cette année. Et comme je disais, ça correspond à l'ambiance actuelle, en fait. Parce que ce sont ces petits jeux qui sont beaucoup plus flexibles, beaucoup moins. Comment est-ce que je le disais ? Parce que j'ai écrit des trucs, en fait. Ce serait peut-être pas complètement idiot de les lire. Donc avec ces idées nouvelles, une meilleure capacité à rentabiliser finalement des coûts beaucoup moins importants, donc moins susceptibles de tomber de très haut, mettre en péril l'avenir de la structure, et dans certains cas aussi d'être en dehors des énormes groupements à la Embracer, à la Nacon, une indépendance qui les rend moins sujets au bon vouloir des investisseurs. Tango Games Works peut en parler, parce que eux ils ont réussi à faire un très très bon jeu qui s'est pas trop mal vendu, ça les a pas empêchés de se faire fermer.
Oui.
Mais voilà, donc effectivement, et je pense qu'on l'avait plus ou moins évoqué à la fin de l'année dernière, au moment du shift, effectivement, des énormes structures qui licenciaient en masse, qu'on allait voir arriver ceux qu'elle allait remplacer, finalement. Enfin, alors peut-être que tous ne viennent pas, finalement, de ces grosses boîtes, ne sont pas des déchus de ces énormes boîtes, mais je pense que la place que ça a ouvert, la place à la créativité, finalement, elle est... Voilà, enfin, il y a eu un appel d'air, en fait.
Il y a un autre truc aussi, c'est que, justement, dans les E3, globalement, en fait, comme la place était très, très prise par les conférences des gros éditeurs, tu retenais, deux, trois jeux par gros éditeur, t'avais 5 conférences, et ça s'arrêtait là. Là, le truc, c'est que maintenant, t'as des conférences à 80 jeux, et qui viennent d'Indé, en général, avec des systèmes de curation qui fait que t'as un nombre de jeux absolument débile, à retenir, qui correspond, de toute façon, au nombre de jeux sortis sur Steam chaque année, qui est absolument démentiel. Et le truc, c'est que, c'est marrant, hein, parce que chaque année, on dit c'est l'Indiepocalypse, alors on va peut-être y arriver, mais pour l'instant, là où tu vois que le côté créatif et là où ça pop à fond, c'est plutôt du côté indé.
Mais c'est pas étonnant, hein. De plus en plus d'outils accessibles pour créer des jeux. On a parlé du Unity, on a parlé ce genre de trucs. N'importe qui peut sortir un jeu sur Steam pour 100 balles. La presse, plus précisément les influenceurs, les créateurs de contenu vidéo, Twitch,
les créateurs de contenu
sont très friands finalement de nouveautés de ce genre et qui peuvent entraîner des vraies réactions en chaîne au niveau de leur public et donc de créer de la popularité. D'ailleurs, les créateurs indés vont chercher les influenceurs, en tout cas les créateurs sur Twitch et sur YouTube pour un Markiplier par exemple peut te faire décoller un jeu.
Oui, un truc.
Un Mister MV pareil.
Par exemple, tout le monde a cru que lorsqu'est sorti Final Fantasy Rebirth, c'est-à-dire la suite du remake qui a eu lieu donc le mois dernier, que en gros Twitch et Internet ne seraient remplis que de ça pendant un mois. Ça a été rempli de ça pendant
3-4 jours.
Ouais.
J'aurais pas dit plus, hein.
C'est ça. Et pourtant, genre, c'était tout le monde l'attendait à fond et tout ça, mais non, en fait, le truc, c'est que ça reste Final Fantasy. Le remake a déjà eu lieu. C'est un jeu auquel tout le monde a joué il y a 17 ans. Même s'il y a plein de trucs et que c'est sûrement un jeu très bien, c'est parce que la hype était pas là.
Et tu vois, j'aurais pu citer un Dive the Diver aussi, un énorme succès. Lui, soutenu par n'importe qui, hein, par Nexon.
Oula, il y a des sous derrière.
Ah, il y a Nexon, hein. Mais du coup, en fait, est-ce que c'était pas une des plus belles, plus belles preuves de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que c'est un énorme studio, un énorme éditeur, qui a sorti un jeu qui a l'air d'un jeu indé, et que c'est aussi ça qui a participé à son succès. Voilà la situation dans laquelle on est. Je pense que ce sera intéressant de parler des, enfin, en tout cas, c'est clairement une analyse incomplète, mais qui, je pense, correspond bien à ce qu'on connaît depuis le début de l'année. Et du coup, voilà. Je pense qu'on en reparlera après les conférences. On verra à quel point ces petits jeux un petit peu étonnants auront envahi les écrans pendant quelques jours.
Ouais, mais enfin, le truc, c'est que pendant qu'on parlait, j'ai regardé déjà vite fait le nombre de jeux
présentés
lors du Guerrier Collective. Il y a l'air d'en avoir une tétra chier. Et quand je dis une tétra chier, c'est même pas pour exagérer, il doit y en avoir 50, enfin ça a l'air débile.
On verra aussi lesquels ont été présentés à différents, les mêmes jeux présentés dans différentes conférences. Ouais, bah déjà, parce que ça réduira un peu les volumes aussi.
Bah super, je vais encore faire une nuit blanche, merci.
Merci le jeu vidéo.
Merci le jeu vidéo, et puis merci Julien de m'avoir prévenu que je devais re-regarder ça.
Très bien, oui. Tout ça pour avoir des vues, monsieur. Hein.
Ouais. D'ailleurs,
on s'en souviendra, Julien.
D'ailleurs, en parlant de Julien, vu qu'on est, on arrive à la fin de l'émission.
Ah oui, on l'a dépassé. Ouais.
On a dépassé. Ça va être l'instant promotionnel. Donc il y a le 3 en ce moment. Ça s'appelle pas le 3, mais j'appellerai encore le 3, et c'est comme ça.
Ce sera plus simple pour tout le monde.
Et c'est comme ça. Il y a notre ami donc Lupus sur sa chaîne Twitch avec tout le collectif Presse F5 qui va faire qui va suivre l'intégralité des conférences.
Il a pas suivi la GFRN direct. Hein.
Ouais, bah oui, ben bah, c'est ça. Genre monsieur était fatigué. Et ce qui va se passer, c'est que Romain et moi, on risque d'apparaître de temps en temps à certaines de ces conférences là.
Ces réactions en direct
de réactions en direct pour vous dire à quel point tous ces jeux sont bien. Et donc allez le voir, vous tapez Presse F5.
Oui, appuyez pas sur F5 sur votre clavier, ça suffira pas.
Presse F5 ou vous cherchez Lupus VII sur Twitch et vous devrez trouver ça. Autre instant promotionnel, le 18 juin. Appel à tous les auditeurs.
Et surtout les métalleux.
C'est la dernière.
On sait que vous êtes là.
C'est la dernière de Prestart. Donc, l'événement qu'on fait tous les mois.
La dernière de la saison.
La dernière de la saison, pardon, qu'on fait tous les mois chez les Tartes. En commençant ça, je pensais pas qu'on en ferait une saison complète. C'est plutôt cool. Le principe, c'est simple. Il y a une partie quiz, une partie blind test. Et cette fois-ci, ce sera très orienté Hellfest et Metal.
Yes. Eh ben, écoute, merci pour toutes ces infos. Et on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut.
Ciao.